France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. C'est le deuxième volet de notre série consacrée aux mutations de l'Asie centrale. Nous parlions hier de la quête de nouveaux partenaires pour le Kazakhstan et l'Ouzbékistan en particulier. Nouveaux partenaires dans le cadre d'une diplomatie dite multivectorielle, qui n'empêche donc pas l'Asie centrale, et c'est notre sujet du jour, de rester proche de Moscou.
La Russie a toujours exercé une forte influence sur notre pays. Nos relations ont commencé à se développer durant la période soviétique. À l'époque, toutes les élites d'Ouzbékistan étaient liées d'une manière ou d'une autre à Moscou. Par conséquent, il est tout à fait logique que nous ne puissions pas nous séparer de la Russie aussi facilement.
Le Kyrgyzstan essaie de jouer sur deux tableaux. D'un côté, selon la rhétorique officielle du gouvernement, notre pays serait neutre. Mais de l'autre, il existe de nombreux liens entre le Kyrgyzstan et la Russie. On sait par exemple que certaines entreprises qui contournent les sanctions fournissent à la Russie des biens à double usage, dont du matériel militaire.
La guerre en Ukraine a donné au Kazakhstan une bonne occasion de prendre ses distances avec Moscou, progressivement et lentement. Le Kazakhstan doit maintenant chercher un contrepoids géopolitique par rapport à la Russie.
Que n'a-t-on pas dit sur le sommet organisé le 9 novembre 2023 au Kazakhstan? Il faut d'abord imaginer la scène. Vladimir Poutine est reçu par son homologue Kassym Jomart Tokayev. Les deux chefs d'État sont à la tribune pour une conférence de presse commune. Le président russe se félicite de ce que leur pays soit les plus proches alliés. Ce sont ces mots. La parole est à Tokayev qui marque une légère pause et se met à parler en kazakh. Vladimir Poutine reste impassible, sauf qu'il ne comprend rien. Le kazakh et le russe n'ont rien à voir. Les membres de sa délégation paraissent d'ailleurs pris d'une légère angoisse. On les voit chercher leurs appareils de traduction. Or, les deux langues ont un statut officiel au Kazakhstan et il est d'usage d'utiliser le russe lors de ces rencontres officielles. Il n'en fallait pas plus pour que l'on dise que ce pays d'Asie centrale tournait désormais le dos à son ancienne tutelle. Tourner kazakh, c'est le cas de le dire, l'homophonie était trop belle. D'autant que le Kazakhstan, comme certains de ses voisins, n'ont pas reconnu les territoires annexés par Moscou en Ukraine. Sauf qu'en parallèle, Astana n'oublie pas de se montrer loyal sur d'autres sujets commerciaux, militaires, ce qui fait autant de leviers de pression d'ailleurs pour la Russie quand il s'agit d'obtenir quoi que ce soit de ce qu'elle considère encore comme son arrière-cour stratégique. Nous en parlons ce matin avec nos invités. Bonjour Julien Torres.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes géographe chargé de recherche au CNRS, vous avez dirigé l'ouvrage collectif « L'Asie centrale des indépendances à la mondialisation » aux éditions Ellipse. Bonjour Isabelle Oyon.
Bonjour.
Et bienvenue, vous êtes chercheuse au CNRS, historienne spécialiste de l'Asie centrale au XXe siècle, directrice adjointe du CERSEC, c'est le centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre-européens. Vous avez pour votre part co-dirigé l'âge soviétique, une traversée de l'Empire russe au monde post-soviétique paru chez Armand Collin. Alors d'abord, avant d'évoquer les liens diplomatiques qui unissent et désunissent États d'Asie centrale et Russie, les liens culturels, quels liens culturels, Isabelle Oyon, ont été préservés depuis la chute de l'URSS et l'indépendance de ces cinq anciennes républiques soviétiques? Les liens culturels entre les populations, quels sont-ils aujourd'hui?
Alors, chacune des républiques est particulière et singulière dans sa trajectoire, déjà au XXe siècle et même avant, sa trajectoire coloniale et soviétique et sa relation vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de Moscou. Les Kazakhs ont une relation, et le Kazakhstan a une relation plus étroite et de plus longue durée, parce qu'il est le premier État, le premier espace à avoir été colonisé par l'Empire russe dès le début du XVIIIe siècle. Et plus généralement, pour ne pas revenir trop en arrière, c'est l'État qui, à la veille de la chute de l'URSS, comprenait le plus de population russe et russophone. Les Kazakhs n'étaient que 39% de la population en 1991, aujourd'hui 70%. Ce qui fait que la russification, la présence du russe, l'attachement à une grande culture russe au sens général du terme est plus fortement implanté, imprégné que dans les autres républiques, ne serait-ce que dans les usages linguistiques. Le russe est bien mieux parlé, le bilinguisme est beaucoup plus développé. Et donc les liens sont objectivement forts, c'est-à-dire que les Kazakhstanais, quels qu'ils soient, Kazakh ethnique, Russe ethnique, Ukrainien, Tatar, etc., ont une ouverture sur le monde global via le russe. C'est aussi le cas des autres populations d'Asie centrale qui sont généralement bilingues, qui connaissent plutôt bien le russe, mais il y a des fortes divergences entre les États.
En Ouzbékistan, par exemple, les langues sont davantage turciques.
Alors, toutes les langues d'Asie centrale, à l'exception du tadjik, sont des langues turciques, donc de la famille des langues turques. Mais pour revenir à la place du russe dans les usages, disons qu'au Tadjikistan, à l'exception des élites et des urbains, le russe est moins bien connu, parfois pas du tout parlé, parfois très mal parlé. Et il y a un gradient comme ça, en fait, nord-sud ou sud-nord, ça dépend dans quel sens on le prend, depuis le Tadjikistan au sud vers le Kazakhstan. Et plus, en effet, on est proche dans son histoire et géographiquement de la Russie, plus le russe est développé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un média, c'est le médiateur de l'ouverture à la culture globale, aux grands médias.
Donc on apprend le russe, par exemple, même si on n'est pas né dans une famille russophone.
Alors,
c'était une évidence.
Alors, les familles russophones, il y en a de toute façon aussi beaucoup dans les sociétés autochtones, en particulier chez les élites et dans les grandes villes. Donc, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les familles au Kyrgyzstan, en Ouzbékistan, au Tadjikistan, où le russe n'est pas naturellement parlé ou parlé plutôt en deuxième instance, il y a souvent une stratégie pour éducative vers les enfants qui consiste à promouvoir l'apprentissage du russe.
Julien Torres.
Oui, et il faut souligner que le russe est encore aujourd'hui enseigné dans les écoles centra-asiatiques, au Tadjikistan, au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, etc. Et qu'il y a même une part des écoles où l'intégralité de l'enseignement se fait en russe. Et ça, c'est un héritage soviétique. Plus largement, on peut rappeler que au Kazakhstan, au Kyrgyzstan et au Tadjikistan, le russe dispose d'un statut officiel.
Ce qui n'est pas le cas dans tous les autres républiques d'Asie centrale.
Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Ouzbékistan, mais le russe est quand même d'un usage encore assez courant, notamment dans les grandes villes. Et même, par exemple, à l'occasion de l'organisation des élections, le matériel électoral, notamment à Tashkent, la capitale, est aussi disponible en russe.
Tashkent, capitale de l'Ouzbékistan, donc des populations bilingues qui, pour certaines aussi, veulent envoyer leurs enfants en Russie pour approfondir encore leur connaissance de la langue, de la culture, comme cette jeune mère qui l'explique à TV5 Monde.
Mon fils, j'aimerais qu'il étudie en Russie, car après avoir obtenu son diplôme, il n'aura pas de travail ici. Ma fille a obtenu son diplôme de médecine, elle n'a pas de travail non plus. L'emploi est un énorme problème pour nous.
La décision réfléchie de quitter le pays est venue il y a bien longtemps, et mes proches à l'étranger ont commencé à m'inviter à les rejoindre.
Qu'est-ce qui me lie à la Russie? C'est ma patrie, les racines historiques de mes parents, tous mes proches sont en Russie.
Il y a aussi beaucoup, on l'entend Isabelle Wayon dans ce reportage, des Russes ethniques qui retournent en Russie, qui prennent la décision un jour d'aller vivre là où, comme dit ce jeune homme, ils ont des attaches familiales.
Alors ça c'est juste, mais c'est un phénomène qui a reculé depuis les années 2000-2010. En fait, le flux des Russes vers l'Asie centrale s'est tari après la première décennie, disons, qui succède à la chute de l'URSS. Mais donc les Russes qui sont restés a priori et qui sont aussi des autochtones, parce que souvent ils sont nés et leurs parents sont nés dans ces pays d'Asie centrale, se sont intégrés en fait. Hein, sur la plupart maintenant jouent le jeu de l'apprentissage des langues locales, bon, avec plus ou moins d'aisance et de facilité. Mais c'est plutôt, là j'ai l'impression, ce qu'on entendait aussi, c'était à la fois l'attrait de la Russie au plan des perspectives professionnelles, puisqu'on observe dans ces pays des migrations de travail très fortes, en particulier depuis le Tadjikistan, l'Ouzbékistan et le Kazakhstan vers la Russie.
Ce sera notre focus d'ailleurs, l'accueil en Russie des populations du Tadjikistan, des migrants qui viennent trouver du travail.
Et d'autre part, il y a cette coopération éducative très intense du point de vue de la Russie qui promeut beaucoup de coopération de tout type, qui cherche à développer des filiales de ses universités un peu partout et qui envoie aussi des lecteurs de russe dans les écoles pour promouvoir le russe.
Julien Torres.
Oui, notamment, il y a au moins 150 000 étudiants d'Asie centrale dans les universités en Russie. Ce qui est quand même un chiffre qui est tout à fait significatif. Et la Russie, par exemple, donne des bourses à une bonne partie de ses étudiants. Ce qu'il faut dire à propos de ces flux étudiantins, c'est que dans la hiérarchie des destinations espérées par les étudiants eux-mêmes, étudiantes et étudiants, la Russie n'apparaît pas forcément en première place. L'idéal serait souvent pour ces étudiants d'Asie centrale d'aller faire ses études en Europe occidentale, en Amérique du Nord, mais plutôt qu'en Russie. En revanche, et là il y a une question qui me semble assez intéressante, c'est que leurs parents, eux, spontanément se tournent davantage vers la Russie. Et ce qui me conduit à souligner que la relation à la Russie, l'image qu'on a de la Russie, de la culture russe, de la langue russe, peut dépendre aussi des générations en fait. Entre les générations qui sont nées et qui ont grandi à la période soviétique, voire qui ont même exercé une profession à la période soviétique, et celles qui sont nées après l'indépendance. Or, on est dans des États jeunes, où la population a, pour majorité, moins de 35-40 ans, et donc la majorité de la population est née après les indépendances,
après 1991. Ouais, une démographie très vivante, avec plus de 3 enfants par femme pour la plupart de ces républiques. Des clivages générationnels, nous disiez-vous, clivages sociaux aussi, Isabelle Oyon, si une partie de la population, en l'occurrence au Kazakhstan, tient un discours sur l'héritage russe, qu'il faudrait solder une critique coloniale, en somme, des années soviétiques et de russification, est-ce que ce discours est répandu dans toute la société, ou c'est surtout un discours qu'on entend chez les élites intellectuelles du Kazakhstan?
Alors, pour ce qui est du Kazakhstan, il y a, je dirais, plutôt un clivage social, mais aussi générationnel. Les élites, enfin, même parmi les élites, en fait, il y a des élites polarisées par la Russie et des élites totalement nationalistes et anti-russes. Donc, en fait, c'est un paysage qui est très complexe. Et ce qu'on observe, alors ça s'est vraiment accentué avec l'agression et la guerre en Ukraine. Ce qu'on observe, c'est un développement dans un segment bien particulier, internationalisé de l'intelligentsia, d'un discours décolonial assez virulent, mais qui reste situé quand même, médiatiquement, socialement, mais qui suffit néanmoins à attiser les conflits et la conflictualité, notamment en ligne, dans les médias, dans l'opinion publique. Mais ça ne représente pas nécessairement l'ensemble de la population. Et dès qu'on est dans des segments sociaux plus inférieurs et générationnels aussi, plus attachés à l'héritage soviétique et au passé soviétique, avec tout ce que ça suppose de nostalgie, là, on peut avoir des positions qui sont pro-russes, mais pas forcément pro-guerre.
Voilà, donc un discours anticolonial qui n'a pas nécessairement été repris par les responsables politiques de ces pays, peut-être à part Islam Karimov en Ouzbékistan, mort en 2016. On verra si aujourd'hui les responsables politiques utilisent ce discours à des fins de politique intérieure et de crédibilité. Alors il se trouve, Julien Torres, qu'on célébrera cette année les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la capitulation nazie, le 8 mai pour les alliés occidentaux et le 9 pour la Russie et les pays d'Asie centrale à l'unisson ou pas? C'est-à-dire, est-ce que sur ces questions de mémoire, est-ce que là l'Asie centrale est à l'unisson derrière Moscou?
Alors, en fait, sur le rapport au passé colonial et soviétique, il y a des éléments sur lesquels il y a un accord entre la vision de la Russie et celle des États d'Asie centrale, et c'est largement le cas concernant la Seconde Guerre mondiale. avec un discours officiel qui reprend largement le narratif russe, mais je dirais largement le narratif sur la Grande Guerre patriotique, sur la victoire, sur le fascisme, et qui est largement approprié par les sociétés, par les populations, et notamment parce que ce discours fait écho au très grand nombre de victimes, parmi les centra-asiatiques, parmi les soldats centra-asiatiques qui combattaient dans l'armée rouge. Et il y a, d'autre part, des événements qui, permettent aux pays centra-asiatiques de se mettre à distance, en fait, hein, de la Russie. Vous avez parlé de l'Ouzbékistan, qui, dès les années 90, en fait, a développé dans son récit national une approche négative de la colonisation, dénonçant la façon dont l'empire tsariste a conquis l'Asie centrale, en fait. S'agissant du Kyrgyzstan, vous avez des événements aussi en 1916 en particulier, à l'occasion d'une grande révolte contre la conscription pour la Première Guerre mondiale. Vous avez cet événement qui est un point d'achoppement entre la Russie et le Kyrgyzstan. En revanche, le Kyrgyzstan a célébré l'année dernière le 100e anniversaire de la création de la République socialiste soviétique autonome du Kyrgyzstan, qui est en fait la première incarnation étatique moderne du Kyrgyzstan et qui correspond au début de la période soviétique. Donc on a finalement un rapport assez complexe au passé soviétique et au passé colonial, avec donc des points de convergence et d'autres de divergence, et qui peuvent être assez sensibles.
Vous connaissez bien le Kazakhstan, Isabelle Loyon. Le Kazakhstan a été, comme l'Ukraine, victime de la grande famine orchestrée par Staline en 1932 et 1933, en tout cas sur décision de Staline, cette famine imposée aux populations. Pour l'Ukraine, on parle de 2,5 millions à 6 millions de morts selon les estimations. Le Kazakhstan a également été concerné. Comment et pourquoi est-ce qu'on en parle moins? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un autre usage fait de cette mémoire?
Oui, alors les Kazakhs, en fait, ont été tout autant victimes de cette famine liée à la collectivisation et à la politique stalinienne de prédation des denrées agricoles pour soutenir l'industrialisation. Et pour ce qui concerne les Kazakhs, cette famine a provoqué, avec la confiscation du bétail, des nomades, la mort d'un tiers de la population.
Un tiers.
Donc les chiffres varient entre 1,3 million, 1,5 million et plus. Mais bon, ce sont un peu des batailles statistiques. Mais les faits, ça ne change rien aux faits. C'est en fait les pertes les plus importantes de cette histoire de la famine soviétique des années 30, pour commencer. Et d'autre part... elle a conduit vraiment à une acculturation très brutale, puisqu'elle a conduit à la sédentarisation. Donc en fait, son statut, je dirais, au plan historique, constitue une rupture encore plus forte pour la société kazakh, ethnique, que la famine pour la société ukrainienne, même si évidemment ça a été un traumatisme énorme pour les deux, il ne s'agit pas d'hiérarchiser ici du tout. Donc la question en effet est tout à fait légitime, pourquoi l'histoire de cette famine n'est pas aussi publicisée que la famine ukrainienne. Alors il y a une longue histoire en fait de cette mémoire et de la construction de cette mémoire et de la construction des revendications mémorielles. Les Ukrainiens ont été très actifs, notamment en diaspora, depuis le Canada à la période soviétique, et ça s'est poursuivi après parce que l'Ukraine a fait un usage en fait politique, de politique étrangère dans sa relation avec la Russie de la famine. Et l'État kazakhstanais, notamment à la personne de Nursultan Nazarbayev, le premier président, a délibérément écarter une stratégie de ce type dans sa relation avec la Russie.
En disant quoi? La Russie n'est pas l'ex-URSS, enfin la Russie d'aujourd'hui n'est pas la Russie de Staline qui nous a imposé ça? Alors, ou en niant qu'il y ait eu cet épisode-là?
Non, alors il a jamais été question de nier cette famine. Au contraire, il y a eu un certain nombre de politiques qui ont promu la déclassification des archives, la mise au jour des faits, etc. C'était plutôt l'idée de ne pas singulariser spécifiquement cette famine Staline dans la dénonciation générale des répressions staliniennes et des répressions politiques au Kazakhstan soviétique. Et donc la première stratégie a été plutôt d'englober la famine dans le continuum des répressions soviétiques. Et donc le travail mémoriel, qui est très important quand même du point de vue des répressions et de la dénonciation des répressions staliniennes, se fait, ne singularise pas la famine. Donc c'est plus tout à fait le cas, parce qu'il y a eu une opinion publique qui a suscité en fait une forme de singularisation justement de cette mémoire. Et en 2013, ce qui est quand même très tard par rapport à l'Ukraine, a été édifié le premier monument en mémoire des victimes de la famine, et à l'occasion d'une conférence et d'une cérémonie particulière.
Donc un usage de la mémoire qui néanmoins n'est pas le même que celui qui est fait en Ukraine de cet épisode tragique. Comment les pays d'Asie centrale, Julien Torres, et avec toutes les nuances de rigueur, ont-ils vécu, je dis nuances parce que vous nous rappelez bien depuis le début qu'on ne peut pas mettre toutes ces républiques dans un même sac, mais comment ces pays d'Asie centrale ont vécu le 24 février 2022, l'invasion à grande échelle de l'Ukraine? On a beaucoup dit à l'époque que ces pays se mettent progressivement à ce moment-là à se détourner de la Russie.
Voilà, la première chose, c'est que je pense que les pays centra-asiatiques ont vu d'un très mauvais œil le déclenchement d'un conflit, et d'un conflit en plus d'une grande ampleur, dans l'espace post-soviétique. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que les pays centra-asiatiques reconnaissent en fait l'intégrité territoriale de l'ensemble des républiques d'ex-URSS, et donc n'ont par exemple pas reconnu les différentes annexions de la Russie.
Des républiques populaires de Donetsk et Lugansk notamment.
Par exemple, de la Crimée aussi. C'est une position d'ailleurs qui précédait 2022. Mm. Par ailleurs, au niveau international, quand on regarde tous les votes qui ont eu lieu à l'ONU sur le conflit, pour dénoncer la guerre, pour demander la sortie de la Russie du Conseil des droits de l'homme, je crois, etc. Mais en fait, à chaque fois, les pays centra-asiatiques soit s'abstiennent, soit ne participent pas au vote.
En avril 2022, ils ont même voté contre la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme, alors qu'ils adoptaient jusque-là une certaine neutralité. Là, ça avait marqué une forme de tournant.
Je pense que leur position principale, c'est... ils espèrent d'une part le retour à la paix, et d'autre part, ils souhaitent maintenir des relations équilibrées avec l'ensemble des acteurs impliqués dans cette guerre.
Est-ce que du côté des nationalistes russes et des discours en Russie les plus nationalistes, a déjà été évoquée l'idée ou la menace d'envahir par exemple le nord du Kazakhstan, qui compte beaucoup de russophones? Est-ce que parfois des parallèles sont faits? Est-ce qu'on parle des Kazakhstanais comme, ou des Kazakhs ou des Russes ethniques au Kazakhstan comme de peuples frères, comme on le fait par exemple en Russie des Ukrainiens?
Oui, alors là, de ce point de vue, vous avez tout à fait raison de parler du Kazakhstan, parce que précisément...
Déjà, c'est le plus proche géographiquement.
Enfin, c'est le seul qui a une frontière commune avec la Russie, c'est le seul... Et quelle frontière commune? Puisque c'est la plus longue frontière continentale.
7500 kilomètres, oui, à peu près.
Et donc, évidemment, là, il y a une question qui est assez importante. Effectivement, depuis longtemps, en fait, il y a dans les milieux nationalistes russes, c'est bien avant 2022, eu des formes de dénonciation de la frontière telle qu'elle existe aujourd'hui et qui est héritée de la période soviétique. Il y avait par exemple eu un ouvrage célèbre de Solzhenitsyn sur la Russie, le devenir de la Russie, dans lequel Alexandre Solzhenitsyn propose que le nord du Kazakhstan, qui était à l'époque majoritairement peuplé par des populations russophones, soit rattaché à la Russie.
Et est-ce que Vladimir Poutine en fait cas de ces quelques voix qui viennent lui murmurer à l'oreille que peut-être que le Kazakhstan...
Non, la position officielle de la Russie n'est pas du tout de dénoncer la frontière. En revanche, de façon régulière et singulièrement depuis 2022, on entend des responsables politiques, soit de second rang, soit de telles fractions ultranationalistes, avoir des discours très agressifs vis-à-vis du Kazakhstan, et indiquant qu'il pourrait avoir une opération similaire à ce qui se passe en Ukraine. Cela dit, il faut bien aussi avoir à l'esprit que le Kazakhstan est un allié
proche de la Russie, fait partie de l'Union économique eurasiatique, fait partie de l'organisation du traité de sécurité collective, etc., 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 et donc n'a pas de discours hostile à la Russie, ni de position géopolitique qui serait franchement hostile à la Russie. Donc on est dans un contexte qui n'a rien à voir avec la situation entre la Russie et l'Ukraine.
Et parmi les populations, cette fois Isabelle Ouayon, est-ce qu'on a vu au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, en Ouzbékistan, des manifestations contre la guerre en Ukraine, des inquiétudes exprimées? Est-ce que ça existe?
Alors, ça a été particulièrement saillant au Kazakhstan, encore une fois parce qu'il y a eu des flux très importants de jeunes hommes mobilisables qui ont traversé la frontière, 200, 300 000, hein, si mes souvenirs sont bons.
Des déserteurs, en fait, de l'armée russe.
Oui, enfin, pas des déserteurs, parce qu'ils n'avaient pas été encore appelés, mais des personnes qui fuyaient une potentielle mobilisation. Alors, très immédiatement, l'opinion kazakhstanaise même, a plutôt généralement été extrêmement inquiète et hostile à la déclaration de guerre de Vladimir Poutine. Et très concrètement, il y a eu un accueil, il y a eu des dispositions prises par les autorités publiques pour accueillir tous ces Russes, à la fois les Russes qui fuyaient pas nécessairement la mobilisation, mais qui fuyaient tout simplement la Russie, dans des perspectives d'assez long terme parfois. Donc, tout un tas de mesures administratives. Et en Ouzbékistan, ce qu'on a observé aussi, c'est des politiques qui saisissaient un peu cette opportunité pour attirer des personnes compétentes, des ingénieurs en particulier dans les technologies de l'information et de la communication. Donc il y a eu une espèce de pépinière village pour les informaticiens qui a été créé en Ouzbékistan pour accueillir ces Russes qui s'exilaient. Donc au début, je dirais que c'était plutôt l'accueil et la réaction était en soutien à l'Ukraine. Il y a eu aussi des mobilisations humanitaires, en particulier au Kazakhstan. Et ce phénomène s'est progressivement tari, je dirais, jusqu'à d'année en année. En 2022, c'était très fort. En 2023, ça l'était encore. Et puis, depuis un an et demi, ça l'est beaucoup moins.
Je n'ai pas très envie de rester ici, parce que ce pays est très proche de la Russie du point de vue du territoire, bien sûr, mais aussi des gouvernements. Ils sont beaucoup trop proches. Ici, on ne peut même pas organiser de meetings en soutien aux prisonniers politiques russes. Ça se fait en Arménie, en Géorgie, et même au Kyrgyzstan, le pays voisin. Mais ici, non, parce que sinon, ils te collent des amendes.
Et
ils peuvent même t'extrader, te renvoyer en Russie. Bon, moi, il y a très peu de probabilités que ça m'arrive, mais en fait, on n'en sait rien. Les règles peuvent changer.
Un Russe exilé au Kazakhstan qui, pour sa part, avait soutenu Alexei Navalny à l'époque où il était en prison et qui, aujourd'hui, a peur d'être renvoyé en Russie par le Kazakhstan. Alors, certains sont renvoyés en vertu d'un accord de coopération, Julien Torres, ou d'extradition. Est-ce qu'il a été déjà mis, on ne sait pas s'il a déjà été mis en place, mais vous vouliez parler des Russes qui sont aujourd'hui en Asie centrale.
Non, oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que, pour aller dans le sens du témoignage qu'on vient d'entendre, c'est qu'il y a beaucoup de Russes qui sont passés par le Kazakhstan en raison de cette frontière commune et qui ensuite sont partis plus loin, sont partis en Asie du Sud-Est, ont essayé de rejoindre la Turquie, etc. Enfin, et il y a finalement aujourd'hui relativement peu de personnes originaires de Russie qui ont fui leur pays et qui sont en Asie centrale. Ce que je voulais aussi indiquer, c'est que l'arrivée massive quand même de ces réfugiés russes au Kazakhstan, au Kyrgyzstan, en Ouzbékistan, au Tadjikistan et singulièrement dans les grandes villes et dans les capitales a eu aussi des effets concrets sur la vie quotidienne des gens dans la région, puisque ça a stimulé par exemple l'inflation, il y a eu des tensions sur le marché de l'immobilier, il y a eu toute une série de cas où des étudiants notamment ont été mis à la porte par leurs propriétaires qui préféraient louer leurs appartements à des Russes ayant la possibilité de payer des loyers plus élevés. Et donc ça a créé aussi comme ça un moment de tension dans les sociétés. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que en fait il y a quand même au Tadjikistan, en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan, une partie non négligeable de la société, pour ne pas dire majoritaire, a une opinion qui est très proche du narratif russe et qui est certainement contre la guerre, mais plutôt quand même favorable à la Russie, et ce pour différentes raisons. D'une part parce que on est dans des sociétés où le modèle occidental n'est pas forcément celui auquel les gens aspirent, et aussi parce que, et c'est en lien avec ce qui sera dit après, parce que il y a à peu près 4 millions de ressortissants d'Asie centrale aujourd'hui en Russie, officiellement enregistrés par les autorités russes, et ça veut dire autant de familles qui ont un membre de leur famille en Russie. Et donc, il y a là une proximité qui est assez évidente. C'est-à-dire que les gens ne souhaitent pas que leurs cousins, leurs frères, leurs enfants soient impliqués dans une guerre et surtout victimes de cette guerre.
Isabelle Wayon.
Et pour rebondir sur ce que le témoignage du jeune russe... en effet, on est aussi dans des États où la contestation publique, politique, n'est pas de mise, que ce soit pour les Russes ou pour les autres, et dans des politiques qui consistent à maintenir un ordre public calme. Et de ce point de vue, par exemple, on a noté depuis 2 ans une restriction des États, contre les stars de pop russes, contre les concerts organisés par les stars de pop russes, qu'elles soient pro-russes ou pas, ou anti-guerre, parce que pour éviter justement tout désordre et...
Donc pro ou anti-Poutine, qu'il s'affiche dans le camp...
Quel qu'il soit, pour ne pas stimuler toutes sortes de mobilisations ou de désordres...
C'est une façon aussi pour le Kazakhstan, par exemple, Julien Torres, d'arrondir les angles, cette volonté d'arrondir les angles, voire de se poser en médiateur parfois entre la Russie et l'Ukraine. Comment ça agit sur les politiques de ces pays ?
Mais alors, ce qui est certain, c'est que la relation entre la Russie et le Kazakhstan, ou entre le Kazakhstan et la Russie, reste très étroite. Hein, et y compris sur les questions mémorielles, il y a eu un discours assez récent du président Tokayev en début d'année qui a souligné qu'il était important que les historiens kazakhstanais travaillent sur les aspects sombres de la période soviétique, mais aussi sur les réussites de cette période. Par exemple. Aujourd'hui, il y a encore énormément, en fait, d'accords économiques, de relations économiques, et, entre le Kazakhstan et la Russie, évidemment, mais en gros, disons que la Russie pèse à peu près 20% des échanges extérieurs de chacune des républiques centra-asiatiques.
Toujours. Tous les secteurs?
Alors, ça dépend selon les secteurs. C'est plus important, la part de la Russie est plus importante dans les importations centra-asiatiques que les exportations. Ce qui signifie qu'ils ont souvent une balance commerciale négative, déficitaire, vis-à-vis de la Russie. Mais ça reste un acteur très important au niveau économique. C'est pas le seul. Ce qui est important, évidemment, c'est de bien comprendre que, du point de vue des pays d'Asie centrale, lorsqu'ils continuent à avoir des relations étroites, y compris au niveau politique, avec la Russie, ce ne sont pas des relations d'exclusivité. Il y a la volonté parallèle d'entretenir des relations satisfaisantes avec la Chine, avec les différents États du monde musulman, l'Iran, la Turquie, avec les pays occidentaux, l'Union européenne. On sait qu'il y a eu un sommet très récemment entre les pays d'Asie centrale et l'Union européenne.
La fameuse diplomatie multivectorielle dont on parlait hier dans Culture Monde. C'est vraiment institutionnalisé, ça figure dans les documents officiels, on ne se fâche avec personne.
Oui, il y a vraiment... je crois que c'est assez important, c'est de souligner que les pays centra-asiatiques ne sont pas dans une vision binaire des relations internationales, et en aucun cas ils ne souhaitent construire des relations hostiles avec les différents États du monde.
Vous parlez des importations et des exportations. La Russie importe, par exemple, on parle beaucoup de l'Ouzbékistan et de son or, mais la Russie importe aussi beaucoup de coton d'Ouzbékistan, du coton qui, dites-moi si je me trompe, a commencé à être cultivé surtout pendant la période soviétique et qui est utilisé, on en parle parlé il n'y a pas très longtemps dans notre série sur les mines. On utilise le coton aussi pour faire des explosifs, de la poudre à canon. Or, la demande, ouais, et même, je crois qu'on avait cité Steinbeck qui le dit dans À l'Est d'Éden, il y a une très belle citation de Steinbeck. Et la demande en ce moment est en forte hausse, c'est quelque chose de stratégique. Les dépenses militaires, enfin les liens militaires qui continuent à unir ces pays d'Asie centrale et la Russie, de quelle nature sont-ils, de quelle ampleur ont-ils aussi parce que, Isabelle Loyon, ces pays n'ont pas militairement tellement de quoi se défendre. Ils restent assez quand même dépendants de la Russie. C'est une dépendance réciproque. Julien Torres, oui, Julien Torres.
Non, alors, tous les pays d'Asie centrale n'ont pas les mêmes liens militaires avec la Russie. Certains sont membres de l'OTSC. C'est le cas du Kazakhstan, du Kyrgyzstan, du Tadjikistan, alors que le Turkménistan, lui, est un État qui a fait reconnaître sa neutralité au niveau international.
Une neutralité permanente. D'ailleurs, on ne voit pas trop la différence avec la diplomatie multivectorielle, mais c'est une neutralité permanente. Si, ça vous paraît très différent?
En fait, ouais. ils ont un mode de développement D'accord. qui est beaucoup plus auto-centré que les autres pays de la région, et singulièrement que le Kazakhstan. Et l'Ouzbékistan, de son côté, lui a été membre de l'OTSC de 2006 à 2012. Il a quitté cette organisation en 2012.
Le traité sur la sécurité collective avec la
Exactement.
Russie.
Exactement. Et donc en fait, on a des situations qui sont différentes selon les États. Et de ce fait, il y a trois États où, par exemple, la Russie a des bases militaires au Kazakhstan, au Kyrgyzstan et au Tadjikistan, ce qui n'est pas le cas pour les deux autres pays de la région.
La Russie utilise d'ailleurs parfois ses liens encore comme des moyens de pression quand elle trouve que ses voisins d'Asie centrale lui mettent quelques bâtons dans les roues. Elle a coupé par exemple les oléoducs quelquefois en direction du Kazakhstan ou le transit du pétrole kazakh par le port maritime de Novorossiysk pour le pétrole, a restreint aussi l'année dernière les importations de produits agricoles en provenance du Kazakhstan, les légumes et les fleurs coupées notamment. Est-ce que, Isabelle Loyon, on peut se dire que quand les pays d'Asie centrale se montrent loyaux par rapport à la Russie, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, ou c'est intentionnel, ou c'est une réelle politique de tous azimuts, de on ne se fâche avec personne?
Non, alors je pense que tout est pesé et tout est pensé dans les politiques que les États centra-asiatiques conduisent envers la Russie, même s'ils sont obligés en effet de prendre des décisions sous pression parfois, ça c'est sûr, mais ça n'est, je pense qu'ils n'envisagent pas leur politique comme une politique de soumission ou de réponse à des pressions. Ils sont aussi actifs. Et d'ailleurs, enfin, Julien Torres l'a bien dit, l'Ouzbékistan, jusqu'en 2016, a eu une politique de coopération envers la Russie beaucoup moins importante que ses voisins, et justement par choix d'indépendance politique, militaire, économique. Donc, ça fluctue, évidemment. Et en revanche, tout ce que vous avez évoqué sont évidemment des signaux que la Russie envoie quand elle considère qu'il y a en effet pas tout à fait assez de loyauté, ou qu'elle veut marquer son ascendant, stimuler certains choix économiques notamment. Donc en effet...
Tout en rappelant, Julien Torres, comme vous faisiez tout à l'heure, qu'elle n'a pas non plus intérêt à aller trop loin, à les déstabiliser. Ça reste des partenaires pour elle, à la fois loyaux, stables et qui ne posent pas trop de problèmes, entre guillemets.
Je dirais singulièrement dans le contexte actuel avec la guerre contre l'Ukraine. Je pense que les autorités russes n'ont aucun intérêt à ce que le Kazakhstan entre dans une période de déstabilisation. Et d'ailleurs, il faut ici rappeler que juste avant le début de la guerre engagée contre l'Ukraine, en février 2022, le Kazakhstan avait connu un épisode très compliqué de manifestations et une tentative de coup d'État.
En janvier
2022. Et les forces de maintien d'interposition ou de maintien de la paix, je ne sais plus, de l'OTSC étaient intervenues au Kazakhstan dans l'idée de soutenir le pouvoir de Kassym Jomart Tokayev et d'empêcher en fait une déstabilisation du pays.
Burgé, je crois, ça se dit comme ça en kazakh, ça veut dire avec la lumière, et c'est le chanteur Molda Nazar qui chantait il y a un peu plus de 10 ans cette chanson. Lui, il n'écrit et ne chante qu'en langue kazakh. Vous écoutez Culture Monde, le deuxième épisode de notre série sur l'Asie centrale à l'heure des choix. Aujourd'hui, sortir ou pas du giron de la Russie, avec nos invités Isabelle Ohayon et Julien Torres. Quand tension diplomatique il y a, ce n'est pas qu'au sujet de la guerre en Ukraine et de la question de l'intégrité territoriale, cela peut concerner aussi le sort des expatriés centra-asiatiques en Russie.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Il y a un peu plus d'un an maintenant, le 22 mars 2024, un attentat perpétré au Crocus City Hall de Moscou, une salle de concert, faisait 144 morts. Les hommes arrêtés par la police russe étaient des Tadjiks qui ont avoué sous la torture. Les Tadjiks qui vivent en Russie se disent depuis harcelés des forces de l'ordre jusqu'à leurs voisins, comme ce magasinier d'Amir, d'ailleurs lui-même arrêté juste après l'attentat.
Deux jours après l'attentat, j'ai été arrêté par la police. J'ai été détenu pendant 2 jours. Là, avec moi, il y avait plus de 100 personnes originaires du Tadjikistan et d'Ouzbékistan. Ils m'ont envoyé au tribunal et ils m'ont dit que j'avais 10 jours pour quitter la Russie. Ils disaient qu'ils ne me trouvaient pas dans les bases de données. Mais en fait, j'avais un permis de travail payé jusqu'au 28 mai.
Un témoignage recueilli par le correspondant de Radio France à Moscou. Bonjour Juliette Closiou.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en anthropologie à Lyon 2, membre du LADEC, qui est le laboratoire d'anthropologie des enjeux contemporains. Vous êtes spécialiste du Tadjikistan et des diasporas tadjiks en Russie. D'abord, comment expliquer que les Tadjiks soient de tous les ressortissants d'Asie centrale les plus nombreux à vivre et à travailler en Russie aujourd'hui ?
Alors, ce phénomène s'explique par plusieurs raisons. D'abord, pour des questions historiques, suite à la dislocation de l'URSS et l'indépendance du Tadjikistan, une guerre civile a éclaté en 1992, qui a opposé des forces régionales, dont je crois votre invité d'hier a
évoqué. Oui, exactement, on en a parlé hier avec Didier Chaudet.
Voilà.
Mais on peut le redire en deux mots. Il y avait deux camps. Voilà.
Il y en avait deux camps principaux qui ont posé des forces, on va dire, islamiques et démocrates d'un côté contre les héritiers de la période soviétique, pour le dire rapidement. Et c'est ce dernier camp qui l'a emporté et qui a porté à la présidence du pays le président actuel, Imam Ali Rahman, qui est en fait le vétéran à l'échelle centra-asiatique des présidents qui sont venus au pouvoir juste après les indépendances, puisque lui, il est au pouvoir depuis l'indépendance du pays. Et du fait de cette guerre civile, l'émigration vers la Russie des Tadjiks a été précoce par rapport aux autres pays d'Asie centrale, provoquée par à la fois le conflit lui-même, mais aussi la déstructuration économique du pays.
Sans compter, donc, on dit qu'il y a aujourd'hui à peu près 1 à 2 millions de Tadjiks en Russie sur une population au Tadjikistan de 10 millions. Sans compter ceux qui ont la double nationalité. 600 000 Tadjiks ont obtenu la nationalité russe dans le cadre d'un accord de double citoyenneté entre la Russie et le Tadjikistan. Et néanmoins, avant même l'attentat du Crocus City Hall de Moscou qui a jeté l'opprobre sur les migrants centra-asiatiques soupçonnés d'avoir importé le terrorisme islamiste, ce qui est aujourd'hui remis en question, on va le voir. Mais avant même cet attentat, les Tadjiks étaient déjà moins bien intégrés et considérés en Russie de façon moins bien que d'autres migrants d'Asie centrale. Pourquoi ?
Alors, je ne sais pas s'ils sont moins bien intégrés. Je pense qu'il y a une sorte de quand vous allez en Russie pendant des années, il y a une sorte de paquet, j'ai envie de dire, en tout cas d'assimilation des centres asiatiques les uns avec les autres. Et les Ouzbeks et les Tadjiks sont souvent assimilés à un même groupe de personnes dites illégales, dites potentielles criminelles et surtout déportables à merci. Simplement, il faut noter que dans le fait que l'émigration tadjik vers la Russie était précoce, ça a mené quand même à une structuration de la diaspora tadjik en Russie, également plus précoce et plus marquée que les autres diasporas centra-asiatiques en Russie. Mais ces organisations, alors je dirais pas politiques, mais disons qui se voulaient en tout cas moins politiques que de défense des droits des migrants ou de représentation culturelle, ont été mises à mal depuis une dizaine d'années en Russie dans le cadre d'une attaque sans précédent contre toutes les organisations qui défendent les droits humains ou les droits politiques et civiques en Russie. Donc la défense des droits des migrants s'en est trouvée de fait elle aussi mise à mal.
Alors depuis l'attentat du Crocus City Hall perpétré selon Moscou par 4 Tadjiks dont 2 étaient des travailleurs migrants installés en Russie, est-ce que les violences à l'encontre des Tadjiks ont augmenté? Comment le savoir? Est-ce qu'elles sont recensées?
Alors depuis les attentats du Crocus City Hall et l'inculpation qui en a suivi des 4 Tadjiks qui ont été présentés quasi immédiatement devant les médias et qui sont toujours inculpés et dont on ne sait pas très bien encore quel est le contenu du dossier mais en effet a suscité une énorme vague de violence vis-à-vis des Tadjiks. Le témoignage que vous avez retranscrit en est l'une des évocations, mais ça s'est déroulé dans toutes les régions de Russie. Et puis il y a eu un effet médiatique aussi très important, parce qu'il fallait que les autorités russes montrent qu'elles agissent immédiatement. Et donc ça s'est traduit par des raids, des déportations, et puis une série de législations qui a servi à renforcer la précarité en fait des migrants, et notamment la précarité administrative. En plus des violences, j'ai envie de dire, menées par des groupes d'extrême droite ou des groupes xénophobes, la violence institutionnelle et policière s'est accentuée. Mais là, je dirais que avec des mesures comme l'élargissement de la liste des faits de déportabilité pour les migrants, c'est-à-dire que désobéir à la police ou participer à des manifestations pour un migrant tadjik en particulier aujourd'hui peut être une raison de se voir déporté, expulsé de Russie, voire interdit de résidence. Et plus récemment encore, deux lois ont été promulguées en Russie qui autorisent les fonctionnaires administratifs et non plus les tribunaux à prononcer des peines de déportation à l'encontre des migrants et a interdit aussi l'accès aux enfants de migrants qui parleraient pas suffisamment bien russe d'être intégrés dans les écoles. Donc, vous voyez, on accentue en fait la marginalisation et la précarité des migrants, tadjiks en particulier.
Et il y a aussi ceux qui arrivent par avion en Russie pour travailler et qui sont aussitôt reconduits par un avion retour parce que des gardes frontières ont trouvé en fouillant dans leur téléphone des images d'un pèlerinage à la Mecque, par exemple, comme l'un d'entre eux l'a raconté à Sylvain Tronchet, correspondant de Radio France à Moscou. Vous qui travaillez, Juliette Clesiou, beaucoup, qui faites beaucoup de terrain en Russie auprès des migrants, notamment tadjiks, que vous racontent-ils? Est-ce que certains veulent partir, ont peur de représailles?
Alors, juste après les attentats, il est clair qu'un certain nombre de migrants avec qui j'étais en contact, parce que je peux plus aller en Russie depuis l'offensive en Ukraine, mais m'ont signalé, enfin ces personnes-là m'ont signalé qu'elles avaient décidé d'envoyer leur famille qui vivait avec eux en Russie de retour au Tadjikistan. C'est-à-dire pour les préserver d'éventuelles violences, on renvoie femmes et enfants au pays pour les préserver. Néanmoins, lorsqu'on a un travail, il est difficile de le quitter, surtout pour faire quoi ensuite, puisque le Tadjikistan est touché par une pauvreté endémique et puis par un chômage endémique et puis par des salaires extrêmement faibles. Donc retourner au Tadjikistan n'est pas forcément une option économiquement viable.
Peut-être un tout petit mot pour conclure, Juliette Clesiou. C'est vrai qu'il nous faudrait presque une émission entière pour aborder cette question, mais on a parlé de ces 4 Tadjiks qui ont été arrêtés par la police russe, tout de suite montrés aux médias, qui sont passés aux aveux mais sous la torture. sûr, c'est difficile d'en savoir bien plus, mais est-ce que leur profil, tout ce qu'on sait depuis un an sur eux, donne accès à des informations sur leur éventuelle radicalisation islamiste, par exemple, comme le dit aujourd'hui Vladimir Poutine?
Là encore, c'est très difficile de le savoir. Il est probable que s'ils ont joué un rôle dans cet attentat, il n'est pas certain, en tout cas, qu'ils en soient les commanditaires ou les organisateurs. Leur profil atteste de personnes relativement récemment arrivées en Russie. Ce sont trois sur les quatre, donc ont famille et enfants. Je serais bien incapable de dire s'ils sont responsables ou non, mais ce qui est sûr, c'est que la radicalisation des Tadjiks, ou en tout cas leur implication dans différents attentats ces dernières années, passe souvent par la case Russie. C'est-à-dire qu'en fait, ce recrutement est avant tout réalisé à Moscou ou dans d'autres régions de Russie, plutôt qu'au Tadjikistan. Donc leur présence en Russie pourrait signaler que... Mais on n'en est pas certain.
Merci beaucoup Juliette Clausiou d'avoir été avec nous pour en parler. Peut-être un mot de conclusion. Merci beaucoup Julien Torres, Isabelle Loyon, sur la façon dont la manière dont sont traités ces migrants tadjiks en Russie ou d'autres migrants centra-asiatiques et vice-versa, puisque vous nous disiez tout à l'heure aussi que des Russes dans les pays d'Asie centrale aujourd'hui se sentent moins bien accueillis qu'avant. Est-ce que ça peut jouer dans les relations diplomatiques, peut-être en quelques mots, Julien Torres?
Je ne sais pas si ça peut jouer directement dans les relations diplomatiques. En revanche, ce qui est sûr, c'est que, en plus de tout ce qui a été évoqué par Juliette Clausiou, ces faits de racisme, cette xénophobie, il faut indiquer que dans le contexte de la guerre menée contre l'Ukraine, il y a eu des pressions pour que des migrants centra-asiatiques s'engagent dans l'armée russe. Les autorités centra-asiatiques, par exemple, sont totalement hostile à ce type d'engagement qui s'est traduit des fois concrètement par des victimes. Dans les villages kirghizes, il y a plein d'endroits où il y a des victimes, des soldats qui sont morts sur le front de Kirghiz eux-mêmes. Ce qu'il faut aussi indiquer, c'est que cette main-d'œuvre centra-asiatique, elle est aussi mobilisée en reconstruction des villes et qui ont été détruites pendant la guerre et pendant leur annexion par la Russie. Et je pense notamment à Mariupol, où il y a toute une série de... Enfin, un nombre assez important, en fait, de travailleurs dans la construction qui sont originaires de ces pays d'Asie centrale.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Julien Torres et Isabelle Ohayon, pour évoquer les relations entre ces républiques d'Asie centrale et la Russie dans toute leur complexité. Merci beaucoup. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Quand la jeunesse est exploitée par des gangs criminels, c'est votre fil rouge ce matin, Catherine. Vous nous emmenez d'abord en Équateur, où un policier a formé des adolescents pour devenir tueur à gages.
Et cela révèle la violence qui s'est généralisée dans le pays. Sans nul doute, le premier dossier qui attendra le gagnant ou la gagnante de la présidentielle qui se tient ce dimanche, scrutin serré entre le président sortant, Daniel Noboa, et son opposante de gauche, Luisa González, comme le rappelle le quotidien équatorien El Universo ainsi qu'El País. Plus de 1500 homicides ont été recensés sur les seuls mois de janvier et février. C'est le début de l'année le plus sanglant en Équateur, souligne la chaîne télévisée Equabis et le journal équatorien en ligne Primifias. Pour le dire encore autrement, cela revient à plus d'un homicide par heure, avec une hausse inquiétante aussi du nombre de mineurs tués, ajoute Primifias. Un policier est aujourd'hui poursuivi donc pour association de malfaiteurs, raconte le média équatorien GK et El País América. Wellington Vladimir Anunchundia Ramirez a été arrêté chez lui en pleine nuit en décembre dernier, rapporte Diario Extra, grâce à une vidéo retrouvée sur le portable d'un adolescent de 16 ans qui fuyait à moto avec un autre de 17 ans après avoir abattu une personne dans une boulangerie. Sur cette vidéo, un adolescent donc s'entraîne à tirer sur des cibles dans un champ. Un homme se tient à côté de lui pour le former, si l'on peut dire, avec un Glock. un pistolet délivré par l'État équatorien, précise El País América et Jeka. Le policier a été identifié au bout de 2 mois de filature. Il vivait tranquillement avec son épouse et leurs 7 enfants dans la ville de Ripirapa, dans l'ouest de l'Équateur, dans un quartier certes où les routes ne sont pas goudronnées, comme le montre la chaîne télévisée locale RipiTV. Mais cette ville, située tout près de l'océan Pacifique, devait être un joyau touristique dans la province de Manabi lorsqu'elle a été déclarée patrimoine culturel national en 2017. Sauf que le trafic de drogue a fait dérailler ses plans. L'an dernier, une narcopiste a été découverte, indique El País América. Elle servait à faire décoller et atterrir de petits avions transportant de la drogue, explique encore Diario Extra. C'est donc dans cette province que le policier Ripu a été arrêté, mais le média équatorien Jeka et El País América déplorent qu'il soit aujourd'hui poursuivi pour association de malfaiteurs et non pour trafic d'êtres humains, car cela place les adolescents qui étaient sous sa coupe au même degré de responsabilité que ce policier.
Et ce phénomène de jeunes tueurs à gages s'est étendu en Équateur.
Les gangs criminels recrutent des mineurs dès l'âge de 8 ans parfois, car ils sont facilement manipulables et peuvent être libérés de prison plus facilement, indiquent Primifias et Jeka. Des enfants, des adolescents qui grandissent dans une narcoculture entourée par la consommation et la vente de drogue, par l'extorsion et le meurtre, leurs visages imberbes gardent encore quelque chose de l'enfance. Pourtant, note le quotidien équatorien La Hora, après l'arrestation de 5 mineurs le mois dernier, la police les recherchait pour 22 assassinats. Mais en Équateur, contrairement à la Colombie, il n'existe aucune stratégie pour lutter contre le recrutement de ces enfants et adolescents. Aucune directive d'enquête pour la police, les procureurs ou les juges, déplore El País América. Pourtant, ces dernières années, le pays andin de 18 millions d'habitants a connu une transformation brutale. Ses ports sur le Pacifique, sa position entre la Colombie et le Pérou, les plus gros producteurs mondiaux de cocaïne, ont fait de l'Équateur un lieu clé de transit et de stockage de la drogue.
En Suède, enfin, Catherine, des adolescents sont recrutés par des criminels iraniens pour s'en prendre à des intérêts israéliens.
C'est ce que révèle un long reportage interactif de CNN qui retrace notamment le parcours d'un adolescent de 15 ans alors que l'obscurité enveloppait Stockholm un soir de mai dernier. Ce jeune s'est éclipsé de chez lui pour entrer dans un taxi Uber.
Il recevait des instructions constamment sur une messagerie sécurisée, lui disant où aller, où trouver la arme. What to do next.
Cet adolescent recevait constamment des instructions sur une messagerie sécurisée lui indiquant où aller, où trouver une arme, quoi faire ensuite. Sa cible, l'ambassade d'Israël à Stockholm. Il n'est pas arrivé à destination, la police l'a arrêté avant, mais dans les 24 heures qui ont suivi, explique CNN, un autre jeune, âgé cette fois de 14 ans, est arrivé sur place et lui a tiré plusieurs coups de feu près de l'ambassade d'Israël. Les services de renseignement suédois ont expliqué à CNN que l'Iran était à l'origine de ces attentats. Ils ont utilisé 2 gangs suédois, Foxtrot et Rumba, c'est leur nom, des gangs recherchés par Interpol. Et les réseaux sociaux sont essentiels pour recruter ces jeunes. Des emojis sous forme de crâne indiquent comment effectuer un meurtre. Des emojis sous forme de dollars indiquent un paiement. En clair, une guerre des gangs qui pourrait presque paraître comme un jeu, explique CNN. La Suède est confrontée à une vague de violence. Je vous en avais déjà parlé il y a 2 ans et les choses ne semblent pas s'améliorer. Quitter les bancs de l'école pour faire ses classes dans la criminalité pourrait aussi expliquer le décrochage scolaire en Suède, rapporte le quotidien Dagens Nyheter, et le premier ministre suédois l'admet. Nous ne maîtrisons pas cette vague de violence, il l'a expliqué lors d'une conférence de presse retransmise à la télévision par la chaîne suédoise SVT. Il espère pouvoir faire passer d'ici l'automne prochain une loi permettant des écoutes téléphonique sur les portables utilisés par des enfants de moins de 15 ans.
Merci beaucoup Catherine Dutu.